Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche redistribue les cartes des relations transatlantiques, mais comment ? Sur le temps long, comment comprendre les relations entre l'Europe communautaire devenue Union européenne et les États-Unis, voire plus précisément l'OTAN ? Et sur le temps court, quelles sont les évolutions récentes, voire quelles perspectives ? Pour répondre à ces questions importantes, Planisphère reçoit Jean-Sylvestre Montgrenier, docteur en géographie, spécialiste géopolitique. Jean-Sylvestre Montgrenier est directeur de recherche à l'Institut Thomas More et collaborateur de Desk Russie. Nous avons commencé cette émission en studio et nous la terminerons par téléphone pour être au plus près de l'actualité.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour Jean-Sylvestre Montgrenier.
Bonjour.
Quelle est l'idée fausse au sujet des relations transatlantiques ?
Alors, l'idée fausse essentielle, à mon sens, d'un point de vue français, c'est l'idée selon laquelle l'Alliance Atlantique aurait été imposée à l'Europe occidentale. Jusque 1949 encore, il y avait des réticences du côté américain, y compris chez George Kennan, qui était le théoricien du containment, qui était partisan d'une garantie de sécurité unilatérale de la part des États-Unis à l'égard des pays d'Europe occidentale, mais qui était plutôt opposé à la formation de cette Alliance Atlantique. Parce que historiquement, les États-Unis sont hostiles aux alliances en temps de paix, considèrent que ça génère trop de contraintes, ça vient limiter leur souveraineté. Et il a fallu beaucoup d'entre-gens de la part de la diplomatie anglaise, alors on dira oui, bien sûr, le Special Relationship, mais également de la diplomatie française, pour que les États-Unis finalement acceptent de signer cette alliance atlantique le 4 avril 1949. Et lorsque cette alliance est signée le 4 avril 1949, il y a bien un article du traité de l'Atlantique Nord qui prévoit la constitution d'état-major, de chaînes de commandement, tout ce que l'on a appelé l'OTAN, mais ça n'est pas d'emblée d'actualité. Pour les Britanniques, c'est assez secondaire parce qu'il y a le côté affinité élective, special relationship, ils ont confiance dans cette alliance. Et paradoxalement, ceux qui insistent le plus pour que l'OTAN soit mise sur pied, donc cette organisation militaire qui vient donner donc une traduction concrète à l'Alliance Atlantique, ce sont les Français. Et ce qui vient accélérer le calendrier, c'est la guerre de Corée à partir de 1950. Eisenhower, qui est le premier commandant suprême des États-Unis en Europe, c'est à ce moment-là que l'OTAN, en tant qu'organisation, se déploie. Mais alors, du côté français, trop souvent encore, il y a cette idée selon laquelle les Américains nous auraient imposé l'Alliance Atlantique. C'était dans leur code génétique, en quelque sorte. C'est complètement faux.
Jean-Sylvestre Montgrenier, sur le temps long, comment comprendre les relations transatlantiques entre ce qui devient l'Europe communautaire en 1957, puis l'Union européenne en 1992-93, et les États-Unis ? Les États-Unis ont soutenu le projet d'Europe communautaire, mais est-ce qu'ils ont soutenu les efforts qu'il y a eu au sein de l'Europe communautaire en matière de défense, ou est-ce que finalement l'OTAN est là pour faire le job ?
Alors, ils ont soutenu le projet, et ils sont à l'origine de ce projet. C'est le plan Marshall, finalement. On oublie toujours que la première organisation européenne qui a été fondée, c'est l'ancêtre de l'OCDE, d'aujourd'hui, à l'Organisation européenne de coopération économique, qui était chargée de planifier la répartition de cette aide, l'allocation à des ressources américaines. Donc, le plan Marshall, c'est 1947, le ECE, c'est 1948, et c'est sur cette base, ensuite, qu'il y a le Conseil de l'Europe qui est institué en 1949 et la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est l'année suivante, 1950. Et là encore, les Américains jouent un rôle essentiel parce qu'il y a quand même un certain nombre de réticences de part et d'autre, notamment entre Français et Allemands de l'Ouest. Les Français ne sont pas pressés de voir ils n'étaient pas très contents déjà de voir se constituer la RFA et ils étaient méfiants quant à un redressement économique, industriel de cette République fédérale d'Allemagne, qui était soutenue par les États-Unis. Et donc l'idée, c'était de trouver un arrangement qui permette le redressement de l'Allemagne de l'Ouest, d'une part, et puis d'autre part, d'apporter un certain nombre de satisfactions aux Français. Donc ils sont véritablement là au départ, y compris après pour le projet de communauté européenne de défense qui échoue. Il échoue de par la volonté française. Là encore, les Américains, dans leur logique extrêmement cohérente, on a redressé l'Allemagne de l'Ouest, désormais mais il y a une constitution, il y a un gouvernement, il y a une forme de redressement économique qui est en train de se traduire dans les faits, mais dans la durée, on ne peut pas prétendre organiser la défense de l'Europe occidentale là, sans que l'Allemagne de l'Ouest y participe pour des raisons économiques, industrielles, démographiques, militaires, géostratégiques.
Alors pourquoi est-ce que les Français bloquent la CED ?
Parce que le redressement de l'Allemagne nous gêne, c'est aussi simple que ça. De Gaulle, à l'époque du gouvernement provisoire, il mène une politique à certains égards maurassienne, pourrions-nous dire. C'est ce que lui reprochait après coup Jean-François Revel quand il parlait de gaullo-maurassisme. Il y avait cette idée selon laquelle, finalement, cette Allemagne divisée en deux, c'était pas forcément une mauvaise affaire du côté français.
Et donc De Gaulle n'est pas au pouvoir, mais il a des parlementaires.
Oui, oui. Déjà entre 44 et 46, c'est une politique de force à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest. Et assez souvent, cette politique de force à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest, elle est plutôt favorable aux positions soviétiques. C'est les Américains, à un moment, qui ont dit, bon, attendez, la Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé, maintenant c'est la guerre froide, il y a d'autres enjeux, et donc il faut faire bloc, il faut faire front. Et donc, on a bien été obligé, là, pour le coup, de suivre, mais il y a quand même toujours eu beaucoup de réticences françaises. Il faut toujours conserver à l'esprit ce paradoxe français, où on voudrait une Europe forte avec des institutions faibles, et ce paradoxe, finalement, n'en est pas vraiment un. C'est parce que l'idée première du côté des Français, c'était d'avoir une sorte de petite Europe à sa main qui permettrait presque la reconstitution illusoire, à mon sens, d'une Pax Gallica en Europe occidentale. Donc, véritablement, en tout cas, les Américains sont à l'origine du projet. Alors, ensuite, une fois que la communauté européenne de défense échoue, parce que les Français n'en ont pas voulu, c'est l'OTAN qui s'impose comme structure de défense.
Ce n'est pas forcément dans l'OTAN, en 1955.
Voilà. L'Allemagne occidentale, enfin la RFA plus l'Italie, adhère à l'Union de l'Europe occidentale, entre dans l'OTAN. Donc, c'est cette structure qui s'impose comme la référence pour la défense de l'Europe occidentale. Puis le fait est que le grand avantage que ça présentait pour les Européens de l'Ouest, c'est d'avoir les États-Unis dedans, parce qu'il y a quand même les garanties de sécurité américaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut remettre l'intégration européenne, parce qu'en France, on parle toujours de construction européenne, mais la plupart de nos partenaires parlent de politique d'intégration. Cette politique d'intégration européenne, il faut la remettre sur le métier, mais c'est avant tout une voie économique et commerciale qui est choisie par défaut. Et donc, il y a cette sorte de division du travail, pourrions-nous dire. La défense, la sécurité, c'est l'OTAN, et puis tout ce qui est économie, commerce, c'est la communauté économique européenne qui commence avec le traité d'Europe. C'est une sorte de séance de rattrapage, finalement, après l'échec de la communauté européenne de défense. Alors, ensuite, avec le traité de Maastricht, à partir du moment où on a commencé à parler des questions de défense et de sécurité à l'intérieur de l'Union européenne, héritière historique de la CE, il y a eu initialement un certain nombre de réticences du côté américain et puis du côté d'un certain nombre d'alliés européens qui considéraient que finalement c'est peut-être précipiter des échéances qui pourraient être fatales, ça pourrait servir de prétexte aux États-Unis pour se retirer. Mais les États-Unis eux-mêmes étaient plutôt hostiles parce qu'ils y voyaient un projet concurrent et bon, leur présence en Europe, elle est importante. Mais progressivement, donc à l'époque de Clinton, à l'époque de la diplomatie américaine qui est conduite dans les années 1990, c'est plutôt des bâtons dans les roues, pourrions-nous dire. Mais les Américains, enfin la diplomatie américaine a tranché au début des années 2000, sous George Bush d'ailleurs, contrairement à ce que l'on peut penser. Ils ont pesé finalement le pour et le contre, et puis ils ont considéré que finalement, si l'Europe faisait plus sur le plan militaire, ça permettrait justement un meilleur partage du fardeau, le fameux burden sharing, qui est un thème qui date des années 1970, au moins à l'époque de Nixon, puis que pour autant, cette Union européenne, même si elle prenait une dimension militaire, de toute façon, ne serait pas capable de se transformer en superpuissance rivale. Donc, je me souviens qu'en 2005, il y avait une visite officielle de George W. Bush en Europe. Il s'était rendu au siège même de l'Union européenne. Il n'était pas resté uniquement au siège de l'OTAN. Et ça valait bénédiction pour les efforts qui étaient déployés à l'intérieur de l'Union européenne pour essayer de lui donner une dimension militaire plus assurée. Ouais.
Alors aujourd'hui, 23 des 27 États membres de l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN. L'OTAN compte elle-même 32 pays, dont 2 pays outre-Atlantique, les États-Unis et le Canada, et donc 30 pays européens. Sur ces 30 pays européens, 23 sont de l'UE et plusieurs sont candidats à l'UE. Ma question est la suivante. Alors que l'alliance militaire dominée par l'URSS, le pacte de Varsovie, se fait harakiri en 1991, comment expliquer non seulement la pérennité, mais les élargissements postérieurs de l'OTAN ? Quel a été le moteur ?
Alors d'abord, le choix a été fait très tôt, dès 1990-1991. On a un sommet de Londres et un sommet de Rome à l'intérieur de l'Alliance Atlantique. Hein, et donc, décision est prise de faire perdurer cette Alliance Atlantique. Tout simplement pour dire les choses de manière commune, parce que d'abord, hein, on sait ce qui se termine, hein, on ne sait pas ce qui commence. Hein, donc, une sorte de réflexe de prudence. Hein, et puis aussi parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, si vous voulez. Hein. Et donc, on sort vainqueur hein, de cette guerre froide. C'est une sorte de victoire froide, hein, presque précipitée. On ne s'y attendait pas forcément. Hein, il y avait un certain nombre de choses qui existaient, bah, des préfabriqués en quelque sorte, comme on a pu dire. Hein, d'un côté, bah, la CE qu'on a transformée en Union européenne, de l'autre côté, l'OTAN. Donc autant s'appuyer bah, sur ces structures qui marchent hein, pour faire perdurer l'effort. Donc c'est le choix qui a été fait à ce moment-là. Alors l'élargissement bah, n'était pas encore acquis, aussi bien à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'intérieur de l'OTAN. La politique américaine elle-même, elle était assez hésitante. Hein, mais assez rapidement, du côté américain, on a quand même compris que maintenir une sorte de zone grise hein, au beau milieu de l'Europe, c'était dangereux, c'était extrêmement tentant pour la Russie, il pourrait toujours y avoir un retour de puissance de la Russie, d'une part, et puis d'autre part, eh bien, les pays en question, la Pologne, les pays baltes, l'expérience historique de la Russie, nous le disait dès cette époque, c'est une phase, il y a des cycles de puissance, quand on regarde l'histoire de l'Empire russe sur la durée, il y a des passages à vide, et puis après, il y a toujours une volonté de revanche, une volonté de reconstitution, donc du côté des pays d'Europe centrale ou orientale, eh bien, on tapait à la fois à la porte de l'Union européenne et de l'OTAN, comme on a pu le dire de façon peu élégante, hein, l'Union européenne, c'est le wagon restaurant, et puis le wagon blindé, c'est l'OTAN. Et c'était tout à fait cohérent. C'est à cette époque qu'on a commencé à parler des instances euro-atlantiques. Hein, on n'entendait jamais parler de ça en France. Hein, et c'est vraiment une expression utilisée par les Polonais, par les Baltes, par les pays centre-est européens. Hein, l'idée que finalement, il fallait rentrer à la fois dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et que le sort, les destinées hein, de ces deux structures étaient étroitement liées. Ce qui est vrai historiquement, puisqu'on a vu le rôle des États-Unis, de l'OTAN, dans la constitution finalement d'un ensemble européen à peu près unifié. Alors ce qu'il faut rappeler c'est que lorsque les pays d'Europe centrale orientale a redouté un retour de puissance de la Russie, c'était pas une simple expectative, si vous voulez, c'était pas une simple spéculation. Le fait est que dès le début des années 90, très vite, il y a un discours qui se développe en ce sens en Russie, à l'intérieur de la Douma, dans un certain nombre de personnalités autour de Boris Yeltsin, et la doctrine de l'étranger proche, elle est énoncée dès 1992, elle devient officielle pour la politique étrangère russe en 1993, avant même qu'il y ait eu un seul élargissement de l'OTAN ou de l'Union européenne. On ne le rappelle pas suffisamment ça. Et à cette époque, eh bien, les Russes ont commencé à mettre en place l'organisation du traité de sécurité collective. Alors à l'époque, on parlait du traité de Tachkent, traité de sécurité collective de Tachkent, l'organisation en elle-même, c'est un peu plus tardif. Mais tout ça, ça prend forme avant que l'OTAN s'élargisse. Et ils ne nous ont pas demandé l'autorisation, parce que souvent il y a cette idée, on a élargi sans demander l'autorisation des Russes. Les Russes ne nous ont pas demandé l'autorisation pour adopter la doctrine de l'étranger proche et mettre sur pied un semblant d'organisation militaire couvrant une bonne partie de l'ex-URSS.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Quand on vous écoute, on a l'impression que la Russie est d'une certaine manière le meilleur agent d'expansion de l'OTAN, puisqu'elle crée une inquiétude. Venons-en à une autre idée, Jean-Sylvestre Mongrenier. Comment qualifier sur la durée les relations de la France avec l'OTAN ? Il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet.
Alors à mon sens, il y a beaucoup d'incompréhension au niveau de l'opinion publique, hein, parce qu'il y a eu une certaine duplicité de la part des dirigeants français. Hein, c'est ça qui... Puisque nous sommes membres fondateurs de cette alliance atlantique, hein, j'ai rappelé tout à l'heure que la diplomatie française avait joué un rôle essentiel à côté de la diplomatie britannique pour que les États-Unis acceptent de signer cette alliance, alors qu'ils étaient quand même plutôt réticents. On a joué un rôle historique important à l'intérieur de cette alliance atlantique, y compris de l'OTAN, mais on estimait qu'on n'était pas tout à fait reconnu à notre juste valeur, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ces affinités électives entre Anglais et Américains qui déjà créent une certaine connivence, la fraternité d'armes de la Deuxième Guerre mondiale, et puis aussi et surtout, peut-être, l'appareil militaire français était encore très largement absorbé par des conflits coloniaux. D'abord l'Indochine, 46-54, l'Algérie, 54-62, ce qui fait qu'une bonne partie de l'effort militaire français, il se dispersait sur ces théâtres extérieurs, et de ce fait, on pesait moins pas dans l'organisation concrète de ce qu'on appelait le théâtre Centre-Europe, la défense de l'Europe occidentale. Et donc, inévitablement, on pesait moins également dans le processus décisionnel. Au moment où la République fédérale d'Allemagne, elle, commençait à se réarmer, une bonne partie de l'effort conventionnel de défense du théâtre Centre-Européen, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui était amenée à peser plus à l'égard des alliés. Et donc, la France aurait voulu une forme de reconnaissance, mais qui aille au-delà des capacités qu'elle pouvait mettre sur le terrain, d'où une frustration. Il y a l'affaire de Suez aussi en 1956, qui aura beaucoup pesé. Et donc, il y a ces récriminations, ces frustrations qui ont débouché par la suite. Alors, il y a d'autres choses à prendre en compte, certainement. On ne peut pas expliquer ça uniquement par des récriminations, mais par la décision de Gaulle. Alors, non pas de sortir de l'OTAN, de sortir du commandement intégré de l'OTAN. On n'a jamais condamné l'Alliance Atlantique, et ça aurait été une erreur de le faire. Il faut se rappeler que cette Alliance Atlantique, on la voulait dès Clémenceau. Alors, en 1966, c'est pas véritablement une sortie du commandement intégré, puisqu'en fait, il y a toujours eu des officiers français à l'intérieur du commandement intégré, mais avec un statut spécifique, c'est vrai. Ils n'étaient pas complètement intégrés dans la technostructure, ils devaient rendre compte au chef d'état-major de l'armée française, mais sinon, ils étaient quand même bel et bien dans la structure. Ce qui s'est passé quand même, parce que ça, c'est important, c'est pas anecdotique, c'est que d'abord, toutes les troupes américaines alliées qui pouvaient être présentes sur le sol français, elles ont été invitées à partir. Ce qui a été fait. Et puis aussi et surtout, et ça, à mon sens, c'est extrêmement dommageable, toute la structure politique, civile de l'OTAN, et militaire aussi d'ailleurs, elle a quitté la France. Et elle est partie en Belgique. Autrefois, tout était à Paris, à Fontainebleau, à côté de Versailles. Et ça nous donnait certainement beaucoup plus d'influence. Les Américains, les Britanniques, les Alliés en général, lorsqu'il fallait choisir des officiers pour aller dans la structure politico-militaire de l'OTAN, assez souvent, ils prenaient soin de choisir des officiers qui maîtrisaient à la fois l'anglais et le français, parce que non seulement le français est une langue officielle à l'intérieur de l'OTAN, mais de surcroît, tous ces gens-là, eh bien, ils étaient amenés à vivre avec leur famille en France. Et là, on y a perdu certainement beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence. Si je voulais résumer ma pensée là-dessus, je dirais que la France, d'elle-même, de façon véritablement paradoxale, elle est descendu du wagon de première classe pour monter dans le wagon de deuxième classe.
Et Nicolas Sarkozy organise en 2007-2008 un retour. Comment qualifier le bon et quelle est l'espérance ?
Alors déjà, il y a une forme de logique, parce que on s'était installé dans ce mode de fonctionnement, et puis on avait trouvé un certain équilibre, surtout qu'une fois que De Gaulle d'ailleurs lui-même avait fait preuve d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre à certains égards, et puis après il y a eu Valéry Giscard d'Estaing qui était persuadé du danger soviétique, de la nécessité d'améliorer au maximum les relations entre la France et les pays membres de l'OTAN, et puis surtout c'est au sortir de la guerre froide, on rentre dans une autre logique, et assez rapidement, on comprend pas que l'OTAN est appelé à jouer un rôle essentiel dans la sécurité, au-delà même de la défense de l'Europe, dans la sécurité de l'Europe, pensons au conflit balkanique, au déchirement de l'ex-Yougoslavie, c'est à l'intérieur de l'OTAN qu'on arrive à trouver un certain nombre d'accords pour déployer des forces, pour faire du maintien de la paix, donc c'est le début des missions non-article 5, mais tout ça, ça passe par les structures militaires de l'OTAN, et donc on se retrouve avec cette situation, cette contradiction qui est quand même gênante. Sur le terrain, il y a beaucoup de soldats français. En revanche, donc dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, plus largement dans les Balkans, en revanche, ces Français sont sous-représentés dans les structures militaires intégrées. C'est la conséquence de la décision de 1966. Donc l'idée, c'était que la France soit beaucoup plus présente et puis qu'elle permette, qu'elle puisse peser plus sur les choix qui sont faits à l'intérieur de l'OTAN, sur les discussions, les débats, le cheminement des décisions, parce que généralement, ça prend un certain temps. Il y a un certain nombre de cénacles auxquels on participait plus, et puis finalement, ces discussions, elles aboutissaient à bel et bien des décisions. Alors au moment où il fallait prendre la décision, la France, ça pouvait intervenir, et puis éventuellement dire non, mais alors le problème, c'est qu'elle se retrouvait complètement en porte-à-faux, puisque les alliés, pendant des mois et des mois, ils avaient discuté d'un certain nombre de choses, et puis vous aviez le français au dernier moment qui bloquait. C'était pas le meilleur moyen d'assurer le pouvoir et l'influence de la France à l'intérieur de cette alliance atlantique. Donc c'est tout cet ensemble de facteurs qui font que cette décision, qui vraiment se préparait déjà d'une certaine certaine manière sous Mitterrand, s'accélérait sous Jacques Chirac, hein, et puis passe à bloquer sur la question du commandement sud de l'OTAN, Naples, les Américains ne voulaient pas lâcher ça parce que c'est la 6e flotte, hein, et Jacques Chirac, hein, s'était entêté sur cette question, donc ça a été bloqué un temps, et puis ça a repris sous Nicolas Sarkozy, mais c'est pas le point zéro, ben Nicolas Sarkozy.
Jean-Sylvestre Montgrenier, nous poursuivons notre conversation par téléphone pour faire un point sur les événements transatlantiques de la mi-février. Autrement dit, je fais référence à la conférence de Munich et aux événements qu'il y a eu autour, avec un certain nombre de membres de l'exécutif américain qui ont bousculé, semble-t-il, les certitudes de nombreux pays européens quant à la garantie de sécurité de l'OTAN. Comment comprenez-vous ces événements ?
Ben, ils sont passablement difficiles à comprendre, hein, parce qu'on peut comprendre la nécessité pas d'un partage du fardeau, d'un transfert à un certain nombre de responsabilités. Ben, et ça fait déjà plusieurs années qu'un certain nombre d'experts européens plaident dans ce sens. Mais là, on a le sentiment d'assister, de vivre à un basculement historique dont on peine à comprendre la rationalité géopolitique, le calcul stratégique. Est-ce qu'il s'agit de se prêter à ce que les spécialistes appellent un Nixon in reverse, hein, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que Nixon et Kissinger avaient fait dans les années 70, à essayer de détacher la Russie pas de la Chine, hein, pour la retourner contre la dite Chine. Alors souvent, c'est cette interprétation qui prévaut, mais on peut être sceptique pour différentes raisons, ne serait-ce que quant à la faisabilité de la chose. Hein, il y a quand même bel et bien une alliance entre la Russie et la Chine qui est solide, hein, qui s'est développée de façon continue depuis les années 1970. Bon, ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est celui d'un empire des Amériques. C'est ce qu'on lit ici ou là, une sorte de triumvirat planétaire. Les Amériques aux États-Unis, l'Europe à la Russie, et puis l'Asie Pacifique qui reviendrait à la Chine. Bon, on peut être là aussi sceptique sur ce partage qui ressemble un peu à une sorte de jeu intellectuel, de monopoly. En tout cas, on ne voit pas la stabilité et la possibilité d'un tel partage. Et après, ben, ce que ça pourrait être, c'est tout simplement un grand repli, un grand retranchement, c'est-à-dire finalement, c'est une sorte d'isolationnisme musclé, hein, qui l'emporterait du côté américain, avec des motivations peut-être plus économiques, financières, commerciales, que stratégiques, géopolitiques. Hein. Le fait est qu'on ne voit pas chez Trump un véritable raisonnement géopolitique. En tout cas, dans
côté européen, il y a eu une forme de sidération quand même.
Sidération, ça suppose, hein, qu'on soit véritablement cloué sur place. Hein. Quand on regarde du côté des Français, des Britanniques, des Allemands et de quelques autres, hein, on voit quand même le souci d'apporter des réponses très, très rapidement. Hein. Donc alors après, se pose la question du contenu de ces réponses, hein, de la faisabilité, hein, de ces mêmes réponses. Hein, dans l'immédiat, hein, il faut aller dans le sens, hein, d'une européanisation de l'OTAN, essayer de récupérer l'OTAN, ou en tout cas pas ce qui en resterait. Hein. Donc ça suppose que les Européens, les alliés européens fassent beaucoup plus. Hein. Bon, pour l'instant, il y a toujours 100 000 soldats américains en Europe. Hein. On ne peut pas les retirer comme ça purement et simplement. Il a été question ici ou là, hein, du retrait d'un certain nombre d'unités américaines. 20 000 en soi, hein, ça ne viendrait pas bouleverser le rapport des forces, hein, sur le continent. En revanche, hein, leur évacuation, hein, des pays baltes, hein, ou de la Pologne, ça serait extrêmement significatif. Hein. Ça serait une invitation finalement à Poutine, hein, pour protester la réactivité des alliés européens sans les États-Unis. Bon, toujours est-il qu'il faudrait chercher à européaniser l'OTAN, hein, c'est-à-dire finalement, ben, récupérer des structures, générer beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de capacités, ben, pour compenser un éventuel redéploiement, voire retrait pur et simple des États-Unis. Ça suppose, ben, qu'on soit capable d'armer des postes de commandement. Ben, tout ça, ça ne se décrète pas, mais en tout cas, ben, il faut réagir vite. Ça doit être notre idée directrice. Hein, et bien sûr, ça suppose des moyens derrière. Hein. Finalement, ben, on change la volonté politique à l'aune des budgets et des capacités. Donc il y a un grand effort, hein, qui attend, ben, des alliés européens.
Il va falloir faire des choix.
Oui, bah c'est le choix de la survie, là, tout simplement. Bah, c'est vital, là, parce que bon, c'est vrai qu'on s'est installé dans le confort de l'Alliance Atlantique avec une garantie de sécurité américaine qui, malgré tout, bah, restait solide. Hein, tandis que là, sur les frontières est hein, de l'Europe, hein, le fait est que la menace grandit. Hein, les Ukrainiens peuvent en parler, puisque pour eux, bah, c'est pas une menace, hein, c'est la réalité de tous les jours. Il peut ici y avoir des conséquences sur le flanc sud de l'Europe. Hein. Il ne faut pas oublier que les Russes sont toujours actifs. Alors, ils ont perdu, hein, ils sont en train de perdre leur base en Syrie, hein, mais ils redéploient ça en Libye. Hein, et il y a des guerres hybrides hein, qui sont possibles en Méditerranée, comme c'est déjà le cas en Baltique. Hein, donc, l'enjeu, sans vouloir dramatiser la chose, est véritablement existentiel. Hein, c'est la sécurité pas hein, des alliés européens, au sens le plus fort du terme. Hein, ça va au-delà hein, de la lutte contre le terrorisme.
Merci Jean-Sylvestre Montgrenier. Un grand merci également à nos réalisateurs Cédric Cobat en studio et Alexandre Lambert pour le téléphone. Planisphère recevait Jean-Sylvestre Montgrenier, docteur en géographie, spécialité géopolitique, directeur de recherche à l'Institut Thomas More et collaborateur de deskrussie.eu. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.